Bonjour à tous, chers auditeurs de RBA, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel de l'hôpital à cœur ouvert. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte d'une fonction éminemment importante dans l'établissement. Que ce soit dans le secteur sanitaire ou médico-social, il s'agit du service social. Très à l'écoute des patients et de leurs proches, je vous présente l'assistante sociale, Laetitia Burel. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Présent dans chaque unité de soins, le service social informe, conseille, oriente, accompagne les malades et leurs familles. Les assistants sociaux travaillent en partenariat étroit avec les équipes hospitalières, dans le respect du projet de vie du patient, du résident et en interaction avec sa famille et son environnement. Les missions du service social hospitalier sont définies par le décret du 26 mars 1993. Ils favorisent le maintien ou l'accès aux droits sociaux et aident les patients, les résidents, leurs familles et leurs proches en cas de difficultés administratives ou juridiques. Ils préparent de façon directe et conjointe avec les services administratifs et les pôles d'activité, également avec les institutions, les services, les associations, les travailleurs sociaux compétents, le maintien ou le retour à domicile, ou si besoin, l'admission dans une structure sanitaire ou sociale adaptée. L'assistante sociale est intégrée dans les services cliniques et une participation active aux différents staffs, aux différentes réunions de concertation pluridisciplinaires, permet une bonne connaissance des pathologies, de leur incidence sur la vie quotidienne et de la mise en œuvre de filières d'aval. Elle fait partie intégrante des services et travaille en partenariat étroit avec les équipes médicales et paramédicales. Son positionnement permet notamment une meilleure détection des difficultés rencontrées par les patients et une anticipation des projets à mettre en place. L'assistante sociale intervient dans chaque étape du parcours de soins, notamment pour les malades atteints de maladies chroniques et ou en situation de handicap. Le service social hospitalier est également un interlocuteur privilégié des acteurs de la ville. Alors, je vais revenir vers mon invitée, Laetitia. Je vous laisse vous présenter plus précisément.
Oui, alors je suis assistante sociale à l'hôpital de Bort-les-Orgues. J'ai travaillé dans différents domaines avant d'occuper ce poste. J'ai commencé ma carrière comme responsable de secteur d'une association d'aide à domicile dans le Puy-de-Dôme. J'ai également travaillé en polyvalence de secteur et dans le domaine de la protection de l'enfance.
D'accord. Alors pouvez-vous nous expliquer comment s'organise le service social à l'hôpital de Bort ?
Alors l'hôpital dispose d'une partie sanitaire avec le service de médecine et de SSR, d'une partie médico-sociale avec l'EHPAD et l'USLD. Il y a également un accueil de jour et j'interviens sur tous ces services. Alors sur la partie sanitaire, je vais intervenir davantage sur la sortie d'hospitalisation ou sur des problématiques existantes au domicile. Je m'assure également que les patients aient tous leurs droits ouverts. Sur la partie hébergement, je participe à la commission d'admission. Alors elle est composée du médecin coordinateur, du médecin du service USLD, du cadre de santé et de l'agent administratif du bureau des entrées. On étudie les dossiers reçus et on propose des admissions lorsque des places sont disponibles. Quand les résidents arrivent sur l'EHPAD, alors je les rencontre et je fais le point avec eux sur les aides qu'ils ont déjà ou les ouvertures de droits qu'il faut réaliser. Et par la suite, je peux les rencontrer alors soit pour des problèmes ponctuels, mais aussi tout simplement pour discuter avec eux et savoir comment ils vont.
Alors, nous pouvons peut-être préciser que cette prise en charge concerne potentiellement les 110 lits d'hébergement qui représentent l'EHPAD et l'USLD, et les 19 lits de SSR et les 15 lits de médecine. Donc soit un champ d'action pour vous de 144 lits, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
C'est très important. Oui. On peut-être préciser à nos auditeurs ce qu'est l'USLD, parce que c'est vrai que nous travaillons souvent avec des acronymes. C'est l'unité de soins longue durée. Oui. Et il est associé à l'hébergement parce qu'il y a des tarifications un peu particulières sur ce service qui est pour autant un service de soins.
Oui, effectivement, c'est un service de soins, mais il y a une facturation, tout comme il y a une facturation en EHPAD sur une partie hébergement.
Alors, comment se déroule une journée type pour vous ?
Il n'y a pas vraiment de journée type à l'hôpital. Il faut composer avec les demandes dans les différents services. Il y a par contre des impératifs sur une semaine. Alors, ce sont des staffs qui se déroulent toutes les semaines où on se réunit en équipe pluridisciplinaire pour parler des patients et des résidents. Alors en médecine et en SSR, on évoque les situations des patients avant leur hospitalisation. On parle des difficultés rencontrées avant ou même pendant l'hospitalisation. L'objectif, c'est d'évoquer le devenir, Donc il y a deux possibilités. En fait, soit on organise un retour à domicile et dans ce cas, il faut mettre en place les aides nécessaires, alors que ce soit humaine ou financière. Soit on évoque une entrée en institution et il faut alors faire les différentes demandes d'entrée en établissement. Alors, je suis donc en contact avec les patients, mais aussi régulièrement avec les proches, pour préparer au mieux cette sortie d'hospitalisation.
On peut préciser que vous êtes même amené à vous déplacer au domicile des patients, par exemple avec l'ergothérapeute.
Effectivement, voilà. Ça arrive pour évaluer un petit peu les aides qu'il faut mettre en place ou les aménagements à faire. Ça permet aussi de limiter les risques sur les sorties et de faire de proposer une solution, en tout cas la plus adaptée.
Alors pour les résidents ou les patients, enfin les patients je dirais parce qu'il ne s'agit pas des résidents dans ce cas-là, qui n'ont pas la chance de pouvoir revenir au domicile, vous apportez également à ce moment-là une aide psychologique. L'hospitalisation met souvent en avant la dure réalité du deuil du maintien à domicile.
Oui, alors effectivement, alors je ne suis pas psychologue, mais effectivement c'est une période, c'est des périodes de vie un peu difficiles, il y a des décisions pas faciles à prendre, et alors quand je dis je ne parle pas forcément que de moi. Il y a les soignants, il y a les professionnels qui interviennent autour de la personne. On essaie d'accompagner au mieux les patients et leurs familles. Et c'est vrai que sur notre secteur, on est aussi confronté à des problèmes de place en EHPAD. Et il arrive que des personnes soient contraintes d'aller temporairement dans des établissements qu'ils n'ont pas choisis, faute de place. Il y a également une problématique de manque d'intervenants à domicile dans certains services, mais aussi sur certains secteurs géographiques. Il faut composer avec tout cela pour essayer d'accompagner au mieux et de faire au mieux. Oui.
Alors, afin de guider, nos auditeurs, pouvez-vous nous présenter une base des différentes protections juridiques ?
Oui, alors effectivement, ça sera une base parce que c'est très complexe et on pourrait en parler pendant très longtemps. Mais dans certains cas, il est nécessaire de faire des demandes de protection juridique, notamment quand les personnes ne sont plus en capacité de gérer ou de prendre des décisions. Alors il en existe plusieurs, protections juridiques, et il y a une graduation dans ces mesures. Donc en premier, on a la sauvegarde de justice. C'est une mesure qui est de courte durée, elle n'a pas vocation à durer dans le temps et elle cesse quand la personne a recouvré ses capacités.
Donc est-ce que par exemple c'est le cas lors d'un problème médical soudain et inattendu ?
Oui, ça peut être une sauvegarde de justice médicale, mais il n'y a pas forcément que ce genre de situation d'urgence. Ça peut aussi être une décision judiciaire dans l'attente d'une instance.
D'accord. Donc il y a d'autres protections.
Effectivement, la sauvegarde de justice, elle peut aussi s'arrêter. Alors, donc soit parce que la personne a recouvré ses capacités, soit parce qu'il y a un besoin d'une autre mesure de protection. Donc on a ensuite la curatelle. Donc la personne, elle est assistée dans certains actes de la vie courante. Il en existe deux formes et donc deux degrés de protection. Il y a la curatelle simple et la curatelle renforcée. Ensuite, on a l'habilitation familiale. Alors ça, c'est une mesure relativement récente, 2016. Elle a été conçue pour les familles où il y a une bonne entente autour de la personne à protéger. Donc la personne désignée, ça peut être un ascendant, un parent, un grand-parent, un descendant, enfant, petits-enfants, un frère, une sœur, un conjoint, époux. Mais par contre, ça ne peut pas être un oncle ou une nièce. On ne pourra pas faire d'habilitation familiale dans ce cas-là. Et dans l'habilitation familiale, il y a aussi différents degrés de protection.
C'est le magistrat qui va décider des domaines dans lesquels le proche va pouvoir intervenir. C'est ça, par exemple, il est habilité uniquement à vendre une maison, par exemple.
Oui, voilà, il y a plusieurs formes d'habilitation familiale et c'est le magistrat qui détaille dans son ordonnance les domaines dans lesquels la personne qui aura l'habilitation familiale peut intervenir. Ensuite, la dernière mesure et qui est la plus protectrice, c'est la tutelle, mais alors c'est aussi la plus contraignante pour les personnes, même si la législation, elle évolue. Depuis la loi de mars 2019, il y a eu quelques évolutions par rapport aux mesures de protection, et notamment en tutelle, les personnes ont recouvré leur droit de vote, c'est un exemple, mais auparavant, ils ne l'avaient plus.
C'est vrai que c'est une mesure de protection qui fait peur Quand on se dit être sous tutelle, ça, voilà, il y a une notion un peu péjorative, alors que ce n'est pas le cas.
C'est peut-être ouais. un peu historique aussi voilà. dans la manière dont voilà, c'était perçu auparavant. Maintenant, ça a quand même évolué et les personnes gardent une certaine autonomie. En tout cas, la législation va vers ça.
Et on voit bien dans les différentes graduations de protection, d'ailleurs.
Oui.
Alors aujourd'hui, il y a quand même un champ des possibles qui est très important.
Oui, effectivement. Alors, en tout cas, quelle que soit la demande qu'on veut faire, il faut remplir un imprimé CERFA, il faut y joindre un certificat médical circonstancié. Ce certificat, il ne peut être établi que par les médecins qui sont agréés et il a un coût qui est de 160 euros environ. Alors, il faut garder à l'esprit, quand on fait une demande de mesure de protection, que le juge des contentieux et de la protection, donc le juge des tutelles, il reste décisionnaire. C'est lui qui va prononcer la mesure, qui lui semble la plus appropriée, alors à la fois au vu des éléments du dossier, des auditions à l'audience et du contenu du certificat médical.
Alors, il me semble qu'un des dispositifs les plus méconnus et peu utilisés est le mandat de protection future. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, effectivement. Alors, le mandat de protection future, il existe depuis de nombreuses années, mais il est peu utilisé. Et pourtant, il permet à une personne qui a encore toutes ses capacités d'organiser sa propre protection. On peut donc choisir qui s'occupera de notre protection quand on ne sera plus en capacité de le faire nous-mêmes. Dans ce mandat de protection future, on peut aller au-delà de l'aspect financier et administratif. On peut parler du logement. Certains choisissent même déjà l'établissement, la maison de retraite dans lequel ils veulent aller, la santé, les obsèques. Et il peut être rédigé de deux façons, alors soit sous sein privé, soit sous acte notarié. Et c'est vrai que sous acte notarié, on peut prévoir davantage de choses.
Et cette démarche n'exclut pas les directives anticipées que l'on remet à son médecin traitant concernant les souhaits de prise en charge médicale.
Effectivement, c'est deux choses différentes. Il y a une nuance entre les deux. Les directives anticipées, on est vraiment sur l'aspect médical, alors que le mandat de protection future, alors il va falloir justifier d'une perte des facultés, faire établir un certificat médical, et on est sur une protection, vraiment sur une mesure de protection qui sera faite selon les volontés qu'on aura rédigées.
D'accord. Alors, votre activité fait également le lien entre la ville et l'hôpital, avec de nombreux partenariats. Cet aspect mérite d'être développé également.
Ben effectivement, le travail en partenariat, il est essentiel au quotidien. Alors, je suis en contact avec les différents acteurs sur le territoire, alors comme les instances de coordination de l'autonomie, les CLIC, les assistantes sociales de secteur ou des autres centres hospitaliers aussi, les associations d'aide à domicile, il y a aussi la résidence autonomie, les EHPAD, le SIAD de la DMR, les infirmiers, il y a vraiment, j'ai dû en oublier très certainement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de partenaires et on travaille ensemble. Alors, ils connaissent bien les personnes qui sont hospitalisées et ça permet une prise en charge cohérente. Et quand ce sont des personnes qui, jusqu'à présent, n'avaient pas d'aide, ben, ça permet aussi de faire du lien et de faire un passage de relais. Et tous les mois, nous organisons à l'hôpital une réunion de coordination où tous les partenaires sont invités. Et cette réunion, elle a pour objectif déjà de s'assurer que les dernières sorties d'hospitalisation se sont bien passées et d'évoquer les situations des patients présents.
Alors, j'imagine que votre activité ne s'arrête pas à la sortie. Un suivi est-il assuré ?
Alors, en théorie, cela devrait s'arrêter dans la mesure où, justement, j'ai fait le lien avec les collègues de l'extérieur. Mais dans la réalité, j'ai parfois contact avec des anciens patients ou de la famille qui peuvent avoir des questions, soit sur les demandes que j'ai effectuées, soit sur des choses qu'on a pu évoquer en entretien. Après, j'ai aussi des contacts avec des personnes qui ne sont pas passées par l'hôpital, qui n'ont pas été hospitalisées, mais qui veulent des informations sur l'EHPAD ou sur l'accueil de jour. Ils veulent faire des inscriptions ou visiter l'établissement en vue d'une demande d'admission.
Alors, comme toujours, lorsque nous présentons les différents métiers de l'hôpital, nous espérons susciter des vocations. Mais quel est le parcours pour devenir assistante sociale ?
Alors, il faut avoir le bac et ensuite, c'est 3 ans de formation.
Donc, on passe par Parcoursup.
Oui.
Ça, hein, ce n'est plus sous forme de concours comme ça a pu l'être auparavant.
Effectivement, moi, j'ai connu le concours. Maintenant, c'est Parcoursup.
Voilà, qui peut présenter aussi ses limites parce qu'on a, voilà, on n'a pas toujours conscience du métier que l'on va embrasser en commençant des études.
Oui, c'est important, je pense, avant de choisir cette filière, de bien se renseigner sur le métier et dans quel domaine on peut aussi l'exercer, car c'est quand même très varié et très intéressant.
Alors, merci beaucoup, Laetitia, pour cette présentation vraiment très intéressante. Vous l'aurez compris, dans chaque unité de soins, vous pouvez demander à rencontrer l'assistante sociale de l'établissement. Cette professionnelle est là pour vous informer, vous soutenir, vous écouter, vous orienter. Elle fait le lien entre l'hôpital et la vie extérieure et peut vous aider dans vos démarches pour faciliter vos soins, l'accès à vos droits, l'aide à la vie quotidienne et l'organisation de votre sortie. Donc, si nous devions résumer les champs d'action de l'assistante sociale hospitalière, donc ce serait l'accès aux soins, l'accès aux droits, le soutien au projet de vie en lien avec la problématique de santé, l'organisation des sorties et la protection des personnes vulnérables. Laetitia, merci beaucoup pour cette présentation de votre activité qui aura démontré aux auditeurs à quel point votre champ de compétences est large et enrichissant. Voilà, au revoir à tous et à très bientôt pour une prochaine émission.
Au revoir.